tous, lundi 4 juillet, retour de ce long congé de la fête du Canada. En ce qui nous concerne, deuxième semaine de Aime l'été, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, la prochaine heure qui sera ponctuée de sujets à la fois divertissants, pour bouger, pour apprécier la beauté, pour goûter les douceurs de l'été et pour se mettre dans, en fait, de la musique plein les oreilles. Voici votre magazine Aime l'été. Et à propos de nos rencontres d'aujourd'hui, nous allons nous balader dans un des plus magnifiques jardins nordiques en Amérique du Nord, le jardin de Métis. À la découverte de nos précieuses abeilles, on visite une miellerie dans les cantons de l'Est et nous passerons de nouveau un moment dans le Vieux-Port de Montréal pour s'initier ou initier les enfants à l'hébertisme dans un sympathique parc d'aventure. Mais d'abord, une comédie musicale qui, des fois, qui décoiffe plutôt. Like the one on me. That's okay, let's see how you do it. Put up your dukes, let's get down to it. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Et oui, une pièce qui remonte à 1980, enregistrée la toute première fois par Pat Benatar, et qui se retrouve dans la comédie musicale, en fait cette pièce, oui, comédie musicale qui est un classique de Broadway, Rock of Ages. Et oui, comédie musicale amusante, décalée, colorée et festive, et qui sera donc au Théâtre Capitole jusqu'au 7 août. Et on a d'autres dates aussi du côté de Montréal, au Théâtre Saint-Denis. On en parle avec Lunu Zucchini, bonjour!
Allô, allô?
Hey, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Très, très bien, merci. Donc, effectivement, je peux dire, j'allais dire vous, mais on va se dire tu, finalement. Alors, okay. Tu es au cœur de cette comédie musicale, hein, des personnages principaux, bien sûr. Alors, bon, d'abord, étais-tu fan de comédie musicale à la base?
Oui, mais moi, j'ai étudié là-dedans, en fait, à l'école de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. J'ai fait mon DEC en théâtre musical, mais là, c'était la première fois qu'on me proposait un projet au niveau professionnel dans ce milieu-là. Fait que non, j'étais très, très, très excitée.
Alors, évidemment, tu es finaliste à Star Academy en 2021 et on t'a revu effectivement dans cette nouvelle mouture de Star Academy en 2022 et tu as justement fait une espèce de medley comme ça. On va en entendre un extrait, un medley avec les académiciens.
Parfait.
«
Bon, ben alors je pense que ça nous donnait une bonne idée, enfin, cette ambiance des années 80. Les grands succès de l'époque, Journey, Bon Jovi, Styx, Poison, enfin, tout y passe. Alors, effectivement, ça décoiffe aussi. Oui, alors Lunou, c'est vraiment, c'était en fait une proposition extraordinaire pour toi.
Oui, oui, en effet, c'était une super proposition, une super opportunité qui m'a été proposée. J'ai passé les auditions en juin dernier, fait que ça fait quand même déjà plus d'un an. Puis il y a eu quand même pas mal d'attentes entre la fin des auditions puis le début de la préparation. Fait que tout le monde était très excité puis avait très hâte de commencer à mettre la main à la pâte, là.
Oui, oui, effectivement. Alors, ce classique de Broadway qui a été adapté en français, qui est mis en scène par Joël Legendre, bien sûr, ça avait été aussi adapté au cinéma, hein, cette comédie musicale. Et puis, bon, alors, parle-moi un peu de ton rôle et un peu de l'histoire.
Oui, ben en fait, moi, je joue Sherry, qui est une jeune fille du Kansas qui déménage à Los Angeles pour vivre son rêve d'être actrice. Puis bon, c'est sûr, c'est une trame narrative assez simple. On a des personnages plusieurs personnages caricaturaux là, qui gravitent autour de l'histoire de Sherry et Drew. Et puis elle, ben, ça déménage à Los Angeles. C'est une jeune femme. Et puis, il arrive plein d'embûches. Puis au travers de ça, il y a plein de chansons rock, de comme tu disais, de plein de groupes rock fétiches des années 80 qui gravitent aussi autour de l'histoire.
Donc, forcément, très accrocheur. Et puis, avec tu es entouré de gens de grands talents. Alors, vraiment une distribution très intéressante. Et puis, en fait, tu es un peu le contraire de ton personnage dans la vraie vie, hein, parce que Sherry, c'est une fonceuse, mais pas dans le sens que elle est prête à tout. Mais toi, vraiment, c'est pas ton cas.
On a des points en commun, puis on a des points un peu différents. Moi, c'est sûr que son petit côté très pétillant, jovial, c'est quelque chose que où je me retrouve, mais son côté fonceuse, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle, que j'aime aller jouer, mais que j'ai pas toujours. Moi, j'ai une petite pudeur plus par rapport à ça dans la vie. Fait que oui, c'est quelque chose qu'elle a que moi j'ai pas, que je lui en dis un coup.
Oui, c'est ça. Et tu disais que pour toi, c'était important aussi d'avoir passé une audition. On sait que tu es connue pour être la fille de Luce Dufault, mais tu veux surtout pas que ce soit à l'avant-plan et tu veux que tu veux franchir les étapes comme elle se doit, puis tu ne veux pas avoir de passe-droit nécessairement.
Non, je ne veux surtout pas de passe-droit. Parce qu'après, quand tu as un passe-droit, tu sais jamais si tu as vraiment cette place-là pour la bonne raison, puis ça te crée de l'insécurité. Moi, je préfère, tu sais, tu fais ton audition, tu l'as ou tu l'as pas, puis après, si on te choisit, c'est en connaissance de cause, puis c'est parce qu'on a vu le travail que tu avais fait lors de l'audition, puis tu te sens un peu plus... C'est en plus que tu as le droit d'être là, mettons.
C'est ça.
C'est moins imposteur.
Et puis, quand même, tu as l'âge que tu as, donc c'est ça, tu as autour de 26 ans, tu es encore très jeune. Alors, mais tu sais ce que tu veux, ça c'est bien certain. Et en fait, aussi, tu es une fille d'équipe.
Oui.
Alors, la comédie musicale, tu n'es pas nécessairement pressée là, d'avoir ton album et de faire tes propres spectacles nécessairement. Tu veux prendre ton temps, je pense, pour te sentir vraiment prête.
Oui, en effet. Puis en ce moment, moi, ça me comble vraiment. Je carbure à ça, les trucs d'équipe comme ça, les relations qu'on a super humaines tous ensemble. On partage la scène, on partage le spotlight, on partage nos angoisses, nos joies. J'adore ça. C'est quelque chose auquel je carbure. C'est que l'album solo, c'est vraiment pas une priorité pour le moment. Puis ça viendra quand ça viendra, mais pour l'instant, ça me comble vraiment.
C'est ça. Il y a eu l'aventure... C'est ça, parce qu'il y a eu l'aventure Star Academy. On peut pas demander plus... si on veut, trip de gang, hein?
Exact.
c'est indéniable. Ensuite de ça, il y a cette comédie musicale, mais il y a aussi cette tournée que tu fais avec ton partenaire de Star Academy.
Oui, avec William, mais ça, on a terminé le 5 juin dernier. Ça a été un beau trip aussi. Là, moi et William, on s'entend super bien. Puis avec la gang de musiciens, toute l'équipe de tournée, ça a été une super expérience qui est déjà terminée, en fait, qui s'est terminée début juin pour laisser place à autre chose.
Ah, d'accord. Alors, je pensais qu'il y aurait peut-être une suite. Non, c'est ça. Ça s'est terminé vraiment. Alors, il n'y aura pas nécessairement d'autres dates d'annoncer pour cette tournée.
Non, parce que c'est directement lié à Star Academy. Puis comme ça revient à chaque année, ben là, cette année, c'est autour de la mouture de 2022.
Des prochains, bien sûr.
C'est Christelle et Loi qui partent en tournée.
Ah, ben oui, effectivement. Alors, il faut laisser place aux autres, bien entendu.
Mais oui,
c'est ça. Donc, ça a été vraiment aussi l'occasion de vous rapprocher beaucoup tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pourriez avoir d'autres projets communs?
On parle pas de projet professionnel ensemble, mais c'est sûr qu'on est très proches puis qu'on a envie de continuer à faire de la musique puis à triper et tout, mais il y a pas de projet professionnel en duo qui sont en discussion en ce moment.
Ouais, c'est ça. Donc pour vos autres partenaires, d'abord pour revenir à la comédie musicale, une traduction québécoise d'Olivier Berthiaume qui a fait un travail remarquable quand même.
Vraiment.
Les chansons sont interprétées dans leur langue originale, bien sûr.
Oui. Toutes les chansons sont en anglais, puis le texte est en français, adapté par Olivier Berthiaume, qui est un de mes enseignants à l'école de théâtre, en fait.
Ah, ben
c'est drôle. Ouais, c'est un de mes enseignants et c'est un très, très bon ami maintenant. Puis c'est lui qui a fait la mise en scène de nos shows de finissants. Fait que, oui, tout est dans tout, on dirait.
Ben, c'est ça, oui, comme on se retrouve, hein. Alors, c'est ça. Parlez-moi de vos partenaires de scène. Il y a Manuel Tadros qui interprète en fait le propriétaire du Bourbon Room, hein? En fait, faisant bien sûr c'est ce légendaire bar bien connu. Alors c'est ça et donc c'est ça, c'est lui qui est propriétaire. D'ailleurs, ça doit être un rôle qui lui va à merveille.
Oui, ça lui va à merveille. Je pense qu'il y a du plaisir à le faire.
Oui.
L'équipe artistique, ben, toute l'équipe autour de ce projet-là, mais tous les interprètes, on s'entend tous très bien. Il y a une chimie assez palpable là, sur la scène entre tout le monde. Puis c'est le fun parce qu'on a des gens qui viennent de plein de milieux différents, qui ont plein d'âges différents, qui ont plein d'expériences différentes. Je pense que tout le monde apporte quelque chose à la production. On rit énormément. On riait beaucoup en répète, on rit encore beaucoup en show. Fait que non, c'est vraiment une super équipe avec Manuel Tadros, Jordan Donahou, Yéry Chassé, Joël Lanctot, Tammy Joubert, Normand Carrière. On est supporté avec trois super danseuses excellentes, Anne-Rose Cupidon, Kathleen Gréco, Mégane Briton. C'est vraiment une super équipe, là.
Bon, alors c'est ça, donc à la fois musique au rendez-vous, mais aussi beaucoup d'humour. C'est sûr, danse, ça vous demande, bien sûr, on connaît le principe de la comédie musicale, alors tout est, comme vous dites, tout est dans tout, alors finalement, la danse, le théâtre, la musique, bon, alors finalement, alors on rappelle les dates très importantes au Théâtre Capitole, là jusqu'au 7 août prochain, et puis ensuite, vous allez vous déplacer à Trois-Rivières, les 9 et 10 septembre, ainsi qu'au Théâtre Saint-Denis à Montréal du 27 octobre au 6 novembre. Alors, pour les gens de Montréal, ce ne sera pas avant l'automne, mais c'est ça, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vous voir soit du côté de Québec ou encore du côté de Trois-Rivières.
Certainement.
Alors, ça a été un plaisir. Donc, des projets, d'autres projets peut-être à venir?
Pour l'instant, je
vous en avez
ça, là.
Vous en avez, oui, plein les bras.
Pour l'instant, oui. Puis après, ben, on verra. J'en souhaite plein, mais c'est ça. Hein. C'est la réalité du milieu, on verra.
Bon, alors effectivement, une production qui est vraiment très palpitante de musique. Enfin, c'est vraiment d'ailleurs une époque, les années 80, hein, une époque qui déménage. Alors, c'est... sexe, drogue et rock'n'roll, comme on dit.
Oui.
C'est à peu près ça.
Oui, vraiment.
Alors voilà, donc un spectacle pour les 13 ans et plus, hein, il faut le mentionner.
Oui, à mentionner aussi.
Alors, des coiffures assez excentriques, des costumes aussi, et puis...
super coiffures, super costumes, super décors, on a vraiment une belle équipe.
Tout à fait typique des années 80. Lunu Zucchini, alors bonne chance, et puis bon été avec cette comédie musicale. Je suis sûre, convaincue que vous avez beaucoup de plaisir à faire ça, et puis on ira vous voir voir soit à Québec, au Capitole, à Trois-Rivières ou encore à Montréal, au Théâtre Saint-Denis cet automne.
Parfait, merci.
Au revoir.
Bonne journée.
C'était Cécile Corbel, née le 28 mars 1980 à Pont-Croix. Définitivement, on reste dans les années 80. Elle est à la fois harpiste, autrice, compositrice, interprète et, chanteuse française d'expression bretonne. Avec sa harpe celtique, elle a commencé par interpréter le répertoire traditionnel celtique avant de composer ses propres mélodies. Elle est en spectacle cet été dans sa Bretagne natale. Alors, c'était la pièce Jardin secret. Et justement, située à 300 km au nord-est de la ville de Québec, les jardins créés par Elsie Rafford sont parmi les plus nordiques en Amérique du Nord. Et justement, on devait en parler avec son arrière-petit-fils, Alexander Rafford, directeur général des jardins de Métis en Gaspésie. Et on parle aussi de cette 23e édition du Festival international de jardins. Alexander Rafford, en passant, qui a été nommé en 2021 membre de l'Ordre du Canada. Alors, c'est c'est sûr qu'on l'a nommé ainsi pour à la fois son implication au niveau de la communauté horticole au Québec et au Canada, pour son soutien également au développement du tourisme régional et aussi pour sa contribution à la conservation du patrimoine et de l'environnement. Alors, bravo à M. Rafford. Malheureusement, on ne l'a pas encore au bout de la ligne. On tente de le joindre. Hein. C'est comme ça la radio en direct. Alors, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est là. Et puis, on peut parler, oui, de son arrière-grand-mère qui était quelqu'un de très particulier. D'abord, il a écrit sa biographie. Et puis, cette dame, enfin, qui avait justement un camp de pêche comme ça en Gaspésie. Et puis, cette aventure de jardin a commencé en 1926, ouais, effectivement. Alors, elle a décidé comme ça de créer ce jardin parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui aimait essentiellement l'équitation, qui aimait les activités sportives, elle aimait le canot, la chasse. Et là, ce qui lui est arrivé finalement, c'est qu'elle a eu une intervention chirurgicale pour une appendicite et là, elle ne pouvait pas vraisemblablement faire des activités trop exigeantes. Alors, son médecin lui avait simplement recommandé de se tourner vers l'horticulture. Alors, elle avait à l'époque 54 ans. Alors, son aventure qui a donc commencé à l'été 1926, elle a élaboré comme ça le concept de jardin et a supervisé le début de leur construction. Alors, ça a pris quand même une bonne dizaine d'années avant que ça se fasse, ce jardin. Enfin, que, évidemment, ça prend, tel qu'on peut les voir, évidemment, ça prend pas mal plus de temps. Ça fait quand même, enfin, ça fait longtemps que ce jardin est implanté. Alors, 3000 variétés de plantes indigènes et exotiques. Alors, il y a, évidemment, les écrits de M. Rafford, notamment le guide Jardin de Métis, qui a été publié aux éditions de l'Homme. Et puis, on parle aussi de ce festival international de jardins qui se poursuit à chaque année. Alors ça veut dire qu'on peut découvrir des installations imaginées par des architectes, architectes paysagistes et designers en provenance d'une bonne dizaine de pays. Alors, c'est vraiment une expérience de visite ludique et interactive. En tout cas, j'ose croire qu'on pourra remettre cette entrevue parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, l'architecte Pierre Thibault aussi, qui collabore depuis 20 ans avec les Jardins de Métis. Donc, il a créé des petites places dans les jardins, justement, pour permettre de petites prestations en plein air. Alors, que ce soit des concerts, des activités littéraires ou culinaires. Alors, vraiment, et puis en même temps, ben justement, pendant la pandémie, hein, les jardins ont été quand même ouverts. C'était une belle activité à faire, forcément. Alors, on a voulu réinventer la file d'attente pour en faire un passage convivial plein de couleurs. Alors, c'est vraiment une belle expérience que de visiter ces jardins. Quand même, on parle de 60 000 visiteurs. C'est ça qu'on a eu, je pense. Ça, c'est pendant la pandémie, en tout cas, de toute façon. Alors, on aura certainement l'occasion de reparler à M. Rafford à propos du Jardin de Métis. On va faire une petite pause et je vous reviens.
Mes souvenirs, quand j'aurais dû oublier, on oublie de s'oublier. Les mirages étrangers, je plane quand je revois ce sourire. Mais les nuages partent en fumée, et dans la brume, tout va s'éclipser.
Non, ça ne me suffit plus, les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne, tout en le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu.
À travers mon silence, ne fait que détruire mon parcours. On vit la nuit pour se mettre un jour. Hors de moi, je compte sur l'autre moitié de mon existence. Ne pas oublier ce qui m'entoure. Tu m'attendras, c'est à ton tour.
Ça ne me suffit plus. Les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne. Je sens le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu. Qu'on aille où on ne s'est pas vendu.
C'était Lenny Kem, Pourquoi tout perdre, voilà. Écoutez, je vous rappelle que parmi nos sujets de la semaine dernière, nous avions parlé du Festivois de Trois-Rivières, hein, qui vous accueille encore jusqu'à dimanche. Aussi, le Festival en chanson de Petite-Vallée, hein, qui se poursuit jusqu'à samedi du côté de la Gaspésie. Et c'est le temps d'aller vous balader dans les magnifiques champs de lavande dans les cantons de l'Est. Agréable escapade chez Bleu Lavande que vous allez apprécier à coup sûr. Je vous rappelle que la floraison des champs de lavande s'étend de juin à septembre. Floraison qui atteint son apogée à la mi-juillet jusqu'à la première semaine du mois d'août. Et ce que vous devez savoir à propos de Bleu Lavande, c'est que les chiens en laisse sont permis à l'extérieur seulement et le site est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux poussettes pour les jeunes familles. Voilà.
Vous écoutez Aime l'été.
Je m'abandonne, une heure fragile sonne, sonne. Tes cheveux filent entre mes doigts. Remets l'idylle d'autrefois. La lune habile montre un chemin
suivant le fil qu'on coupera demain. C'est si facile, main dans la main.
Et c'était le duo français Poum, composé de Camille Ferreira et Siegfried de Turckheim. Ils étaient, enfin, ce duo qui avait sorti en 2016 un premier album tendre et poétique avec un son électropop à la fois doux et serein, mais un album qui ne semble pas avoir eu de suite, finalement. Enfin, je faisais des recherches, là, et... Bon, alors, je sais que Monsieur de Turckheim semble avoir écrit des livres pour enfants par la suite, mais enfin, la pièce avait pour titre « Les voiles ». Eh bien, on va partir à l'assaut des spectaculaires bateaux grandeur nature que l'on peut apercevoir dans le vieux port de Montréal durant l'été et même durant l'hiver, enfin, ceux de voile en voile. Et oui, après avoir entraîné, vous avoir entraîné la semaine dernière dans la Grande Roue et la Tyrolienne, c'est au tour de ce parcours d'aventure pour toute la famille d'attirer notre attention. Et j'accueille le coordonnateur des opérations, Hervé Di, j'espère que je prononce bien votre nom.
Oui, c'était pas si mal. Évidemment.
C'est pas si mal, c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. J'imagine bien. Écoutez, alors oui, parlons de ces parcours. Vous savez, bon, les parcours aériens maintenant sont très élaborés. On a des modules de jeux très colorés pour enfants, des circuits d'entraînement urbain. Bon, enfin, ça change de ces circuits d'hébertisme que nous avions dans les camps de vacances d'autrefois.
Oui, donc c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des parcours d'hébertisme un peu comme Arbre en arbre, mais en contexte urbain.
Ouais.
Et le fait d'être au Vieux-Port, ça, c'était une bonne occasion aussi de marier l'histoire du Vieux-Port avec l'histoire du Québec, un peu d'où les bateaux grandeur nature.
C'est ça, exact.
Pour comprendre un peu la thématique pirate, bien sûr, avec les enfants, jouer un peu sur le thème. Et un autre bateau qui lui représente plutôt le bateau de la marine royale française. Des années 1600 à peu près.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Vous faites partie d'une équipe, hein, d'un groupe qui s'appelle Éco-Récréo depuis 2016. Alors, vous offrez dans différents sites touristiques de la province de la location d'équipements sportifs et récréatifs à travers les saisons. Je pense au quadricycle, pédalo, kayak, vélo et puis, bien sûr, en hiver, patins, ski de fond et tout et tout. Donc, vous étiez déjà bien connu dans le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau par vos activités.
Oui, donc c'est ça. Au tout début, au parc Jean-Drapeau et au Vieux-Port de Montréal, donc avec Éco-Récréo, la location de quadricycles et de pédalo, comme vous avez mentionné. Et dans les dernières années, depuis 2015, on a rajouté Voile en Voile, notre parc d'hébertisme. Mais on a également rajouté au parc Jean-Drapeau et à la plage d'Oka, Aquazilla, qui est une entreprise que qu'on a acquise il y a de cela un ou deux ans. Et sinon, l'hiver, oui, on a la location d'équipements également, de patins, comme vous l'avez mentionné. Mm-hmm.
Alors, vous vous inspirez, j'imagine, de ce qui se fait un peu partout dans le monde aussi.
Ben oui, l'idée, c'est de rajouter ce concept-là de plaisir en famille, de créer des activités où les gens peuvent participer, où est-ce qu'ils peuvent être actifs et passer un moment entre amis et en famille, et ainsi créer de nouveaux souvenirs aussi, parce que c'est dans des occasions comme ça qu'on crée de nouveaux souvenirs, surtout en famille.
C'est ça. Et les tours guidées en Segway, c'est vous ça aussi?
Oui, les tours guidées en Segway, c'est nous aussi. Nous sommes au Vieux-Port de Montréal pour les tours guidées, et sinon au Parc Jean-Drapeau aussi. Donc, on a différents tours commentés sur l'histoire du Vieux-Port de Montréal, sur les îlots et tout ce qu'on peut voir au Vieux-Port. Mm-hmm. Et sinon, on a des tours aussi le soir pour pouvoir admirer, particulièrement les soirées de feux d'artifice. C'est assez impressionnant de s'arrêter en Segway et de regarder les feux d'artifice.
Eh bien, vous êtes indispensable à nos vies, finalement, et puis à nos activités, bien sûr. Dès la première année, vous avez obtenu un grand succès avec De Voile en Voile, hein?
Oui, donc c'est ça, c'est un concept. Je pense que tout le monde est un peu familier avec Arbre en Arbre, puis de pouvoir avoir ce type d'activité en contexte urbain, ça nous permet d'attirer quand même des familles, même des gens qui n'ont jamais essayé ça. Et ça leur donne l'opportunité, l'occasion d'essayer, de se tester, puis de pousser un peu leurs limites également. On est beaucoup dans le dépassement de soi. Donc, on encourage tout le monde, de 3 ans à 99 ans, à venir essayer nos parcours et à voir s'ils peuvent repousser leurs limites.
C'est ça, parce que là, il y a différentes hauteurs aussi, alors selon l'âge.
Oui, il y a différentes hauteurs. Donc, pour les plus jeunes, on a des parcours à 2 pieds de hauteur qui commencent, donc des parcours d'initiation pour donner le goût. Et après ça, pour nos plus hauts parcours, on a des parcours à 35 pieds de hauteur qui permettent d'avoir une vue imprégnable sur le Vieux-Port de Montréal et le marché Bon Secours juste derrière nous. Et on a différents niveaux de difficulté également. On a des parcours d'initiation qui sont beaucoup plus faciles et on y va toujours graduellement. On essaie d'encourager les gens d'y aller dans des parcours faciles d'abord, intermédiaire, après difficile, puis après ça, une fois qu'ils se sentent prêts, on a un parcours double diamant qui permet à tout le monde de se pousser un peu, mm-hmm. et parfois de sacrer aussi.
Je comprends, mais sachez, enfin, on peut dire aux auditeurs que c'est très sécuritaire, alors quelle que soit la hauteur, même si parfois il y en a qui ont peur justement des hauteurs, mais quand même, ça reste très, très sécuritaire.
Oui, bien sûr, ça reste très sécuritaire. On prend le temps de bien expliquer les règles à tout le monde, de bien attacher, et on utilise un système très particulier qui nous permet d'attacher les gens. Donc, les gens n'ont pas besoin de s'attacher, de s'attacher eux-mêmes. Une fois qu'on les attache au début d'un parcours, ils sont attachés tout le long. C'est un circuit fermé, ils ont juste à suivre. Tout ce qu'on dit aux gens souvent, c'est « tout ce que vous avez à faire, c'est juste marcher et c'est de ne pas regarder à terre ». C'est principalement ça qu'on demande. Maintenant, notre système nous permet de bien attacher tout le monde, ils sont attachés, puis c'est toujours assez fascinant et surprenant de voir un jeune de 6-7 ans dans un parcours à 35 pieds de hauteur avoir beaucoup de plaisir.
Ah, c'est ça. Alors donc, on se concentre essentiellement sur ce qu'on fait et puis sur les difficultés en soi. Mais en fait, ça a été quand même la construction de ça, ça a été un travail colossal, hein?
Oui, donc ça a quand même pris du temps à construire en 2015. Je pense que c'est fait en quelque chose comme 6-7 mois. Donc, c'est d'assembler tout ça puis de s'assurer qu'on a différents parcours qui vont satisfaire les défis et les désirs de tout le monde, mais également de le faire de manière à ce que tout soit sécuritaire et qu'on respecte aussi la thématique du Vieux-Port. Et on essaie toujours, avec chacune de nos activités, de s'inscrire dans le paysage où est-ce qu'on est, puis de pouvoir faire une continuité avec le pan historique du lieu où est-ce qu'on se trouve.
C'est ça. Alors, ça a nécessité quand même le travail de 200 ouvriers. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que, bon, j'imagine qu'il existe ce genre de parcours d'aventure en milieu urbain à différents endroits, mais là, Montréal a quand même aussi, j'imagine, sa spécificité au niveau du site, le site du Vieux-Port, bien entendu. Et vous êtes en opération aussi l'hiver. Expliquez-moi donc.
Oui, on est en opération l'hiver aussi. Malheureusement, depuis la pandémie, on n'a pas pu opérer pendant l'hiver au Vieux-Port. Mais oui, pendant le dernier hiver, on était en opération, on a ouvert quelques-uns de nos parcours, pas tous malheureusement, mais on a ouvert quelques-uns de nos parcours pour permettre aux gens de faire les parcours aussi pendant l'hiver. Mais sinon, sur l'ensemble de notre terrain, on essaie de créer différentes activités qui sont plus conviviales et qui se prêtent mieux à l'hiver aussi. Donc, la thématique des activités qu'on a là sur le site varie un peu d'hiver en hiver. Mais c'est toujours là pour respecter cet esprit d'activité en famille et de plaisir partagé.
C'est ça. Donc, à suivre pour ce qui est des activités d'hiver. Là, on n'est pas rendu là. On va profiter, évidemment, de notre été. Alors, on en a vraiment plein. Tu sais, bon, on en a pour s'amuser follement. Alors, 7 parcours aériens, 5 de différentes difficultés, différentes hauteurs, 2 parcours à l'abordage, parce que là, on peut se lancer à l'attaque de l'un des bateaux aussi. Expliquez-nous donc, rapidement.
Oui, donc c'est un parcours qui rallie les deux bateaux. Donc c'est de partir de notre bateau royal qui est à peu près à 20 pieds de hauteur pour se retrouver sur le bateau pirate de l'autre côté. Donc c'est une sorte de mini tyrolienne un peu, mais c'est ça, c'est plus de l'abordage, un peu comme dans les films de dans les films de pirates et tout.
C'est ça, de pirates des Caraïbes.
C'est ça, exactement, de pouvoir aller à l'assaut d'un bateau.
Bon, pour très amusant.
Créer cet esprit-là, puis jouer un peu avec l'imagination des enfants.
Eh bien, il y a quelqu'un chez nous, d'ailleurs, qui l'a fait en famille. Alors, c'est très, très sympathique. Alors, c'est vraiment, vous avez en arrière-plan le marché Bon Secours et la vue sur le Vieux-Port de Montréal. Voile en voile, c'est à découvrir dans le Vieux-Port de Montréal. Merci bien d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée à vous. Et on ira s'amuser.
Au revoir.
Au revoir.
Tell me everything and hold no lies. Say you're waiting for better skies. Were you mad as hell when you realized all the little things which we rely. To get my mind right, wasting borrowed time. Yeah. Where were you when I was lost? So far from dry. Oh, but honey, don't taste like summer no more. Stick around now, I miss you every night. And we could pass time moving left to right. Yeah. Think about when life goes by. Lost, so far from dry.
Oh, but honey don't taste like summer no more. Stick around now, miss you every night. And we could pass time moving left to right. Think about when life goes by or within a day. Honey don't taste like summer no more. Ooh, it don't taste like summer no more. Ooh. Summer no more. Ooh, it don't taste like summer no more. Ooh, it don't taste like summer no more. Summer no more, yeah, summer no more. Oh, but honey don't taste like summer no more. Don't taste like summer no more. Stick around now, miss you every night.
I miss you every night.
A week or past time, over left and right. Think about when life goes by. Oh, like summer, no more. Stick around now, miss you every night.
A
week or past time, more than left or right. Think about when life goes by, or within a day.
Honey, don't taste like summer.
C'était Johnny Balik, chanteur américain né en 1991 au Tennessee. C'était la pièce Honey. Eh oui, alors vous savez qu'il existe maintenant de nombreuses mielleries dans les différentes régions du Québec qui offrent une gamme de produits qui se mettent au premier plan le doux nectar récolté par les inépuisables abeilles. Et je rencontre justement Carole Huppé, propriétaire de la miellerie Lune de Miel. Bonjour!
Bonjour!
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Bon, alors, la miellerie Lune de Miel, située à 5 minutes de Sherbrooke, hein, qui propose, bien sûr, des visites éducatives pour tous sur la vie des abeilles, entre autres. Et puis, il y a de l'animation. En tout cas, vous allez m'en parler plus longuement. Je voulais juste revenir sur le fait que, d'abord, les abeilles, hein, on sait que ce sont, enfin, vous êtes bien placés pour le savoir, ce sont des insectes très évolués.
Oui,
mais néanmoins, des insectes très anciens, là, ça remonte même, en fait, on parle de 40 millions d'années, puis on les retrouve dans l'Égypte antique. Alors, je ne sais pas si vous en parlez dans vos présentations, mais en tout cas, on les retrouve, vous savez, dans les fameux hiéroglyphes à l'époque de l'Égypte antique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est parce que je voyais votre nom, la miellerie Lune de Miel, et puis ça m'amène à parler justement de l'Égypte antique. Juste une petite parenthèse, Madame Huppé, parce qu'en fait, les Égyptiens, vous savez, utilisaient le miel comme cadeau pour leurs dieux, et même c'était c'était un liquide qu'on utilisait pour l'embaumement. Mais aussi, les pharaons utilisaient le miel au cours de la célébration de mariage. Et puis ça s'est apparemment transmis dans la culture gréco-romaine jusqu'au Moyen Âge, et les jeunes mariés qui buvaient une boisson à base de miel durant leur premier mois de mariage afin d'apporter joie et bonheur. Et cela a conduit à la lune de miel, apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'en pensez-vous?
Alors, probablement, oui, certainement. Le miel, c'est tellement délicieux, donc
oui.
c'est agréable pour les nouveaux mariés.
Ben, exactement, oui, tout à fait. Enfin, chose certaine, bon, là d'abord, difficile de ne pas parler d'une miellerie sans parler du déclin des abeilles, qui est quand même préoccupant. Ça, c'est au cœur toujours de l'actualité.
Oui, absolument. On sait que l'hiver dernier a été très difficile pour l'ensemble des apiculteurs du Québec. On a perdu beaucoup d'abeilles à cause d'un petit parasite qui a causé bien des dommages, là. Alors oui, on demandait ce printemps aux gens de garder leurs pissenlits, et ça, vous savez que ça a été très utile pour nos abeilles et autres insectes pollinisateurs, entre autres les bourdons. Alors oui, les gens ont gardé les pissenlits, ça a aidé nos abeilles à repartir et puis décoller des nouvelles colonies pour l'été.
Bon, alors au moins on sait pourquoi on a des pissenlits sur notre terrain, et puis c'est essentiel, effectivement, on n'arrache plus nos pissenlits à partir de maintenant.
Bon, et oui, les pissenlits, on sait que c'est la première plante qui leur donne toute la nourriture qu'ils ont besoin. Et je pense que le plus important, c'est de de ne pas utiliser les pesticides sur les pissenlits. C'est ça qui est encore le plus dommageable. Là, quand on utilise les pesticides, ça tue tous ces insectes-là. Alors ça, c'est vraiment très, très dommageable.
C'est ça. Alors vous existez depuis plus de 30 ans. Oui. Vous avez quand même, vous produisez 15 variétés de miel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plantes différentes aussi dans vos champs.
Oui, alors nous, on a 400 ruches qu'on déplace un peu partout dans les champs, chez les fermiers, dans les cantons de l'Est. Et on sait que chaque fleur produit un miel au goût différent. Donc nous, après chaque variété de fleurs, on se donne, comme on dit, la peine là, de récolter pour justement pouvoir offrir différentes saveurs.
Oui, c'est ça. Et puis vous êtes, comment est-ce que vous en plantez vous-même des fleurs ou enfin des plantes?
C'est sûr qu'ici, à la miellerie, quand on offre nos visites là, touristiques, on a des plantes tout le tour de la miellerie qui produisent du miel. Mais on va pas planter des grands champs pour cultiver le miel là, pour nos abeilles parce que ça serait trop dispendieux, ça coûterait trop cher. Alors, on va déplacer nos ruches dans des grands champs chez les fermiers, plus les endroits où est-ce qu'ils ont besoin de nos abeilles pour polliniser, entre autres les pommiers, les fraises, les framboises et les fameux bleuets au lac Saint-Jean, là, ont besoin de nos abeilles pour la pollinisation.
C'est exactement l'enjeu, le problème avec la disparition enfin de nos abeilles et de tous les pollinisateurs, parce que ça menace la biodiversité, bien entendu. Et puis, faut dire que là, juste rappeler un petit peu là, le fait qu'il y a des gens qui ont peur de ça, les abeilles, mais souvent on les confond avec les guêpes. Alors juste dire que les abeilles, ce sont celles qui ont enfin une petite taille, si on veut.
Non, je dirais pas ça de cette façon-là. Non, évidemment, lors de nos visites, on a fait un panneau là, montrant vraiment les différences entre les abeilles domestiques, celles que nous avons dans les ruches qui produisent du miel, les abeilles sauvages qui vivent au Canada mais qui font pas de miel. Ensuite, les fameuses guêpes. Mm-hmm. Elles ont une très petite taille.
Ah, les guêpes, ils ont une... Ah, oui. Je voulais dire en termes de longueur. Tu sais, les abeilles sont un petit peu plus courtes que les guêpes. Ça se peut-tu?
Je vais vous dire, il y a plusieurs variétés de guêpes et il y a certaines guêpes qui sont beaucoup plus petites que les abeilles domestiques.
Ah,
tu sais, il y a tellement de variétés de guêpes puis de couleurs. Et tout de suite, je peux vous dire que si vous voyez un nid fait de papier, ce sont des guêpes.
Ah, OK.
OK? Ouais. Donc, puis il y a les bourdons aussi qui sont très importants, les gros bourdons que vous voyez dans vos fleurs.
Eux, on ne les manque pas, oui. On les reconnaît.
on informe les gens sur cette différence-là et comment, comme on dit, ne pas avoir peur d'eux, comment procéder aussi avec eux. Donc, on informe les gens un petit peu là, pour qu'ils aient moins peur de ces insectes-là.
On démystifie vraiment. Vous êtes quand même le premier centre d'interprétation des abeilles.
Oui, exactement. Oui, alors nous, évidemment, en tant que producteurs, on trouvait ça tellement intéressant d'expliquer aux gens comment que l'abeille fonctionne, comment qu'elle vit, comment elle fait son miel, comment elles communiquent entre elles. Donc, il y a 40 ans, donc on a déjà installé un endroit pour recevoir les visiteurs. Et avec les années, évidemment, on a amélioré nos visites. C'est-à-dire qu'on a une belle salle climatisée pour expliquer le tout. Et pour accommoder nos visiteurs, on fait deux visites distinctes. Mm-hmm. Donc, une visite pour les familles avec jeunes enfants et une famille pour les plus grands avec plus d'explications. Et pour les tout-petits, l'avant-midi, nous offrons un beau dessin animé. On suit une petite abeille, on suit Abby de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, on la voit là, fabriquer le miel et tout.
Oui, alors voilà. Puis donc, vos installations sont quand même offertes aussi pour des gens à mobilité réduite, je pense.
Oui, absolument, oui. C'est accessible pour les fauteuils roulants partout dans la miellerie et dans notre musée également. On a un musée, une ruche géante, grandeur humaine. Alors, c'est accessible pour tous, là, les enfants ou les personnes en fauteuil roulant. C'est vraiment accessible pour tout le monde.
Bon. Et puis, vous avez, en fait, une petite ferme en même temps. Vous avez des alpagas même sur vos installations, ainsi que des poules.
Oui, les petites poules, les alpagas. Les jeunes aiment bien les nourrir, donc c'est facile de pouvoir leur donner de la nourriture. On sait que c'est très doux, hein, c'est pas agressif, les alpagas. C'est bien apprécié des tout-petits.
Oui. Miel et hydromel, est-ce que vous en vendez, vous, de l'hydromel?
Non, l'hydromel, qui est la boisson faite avec le miel, non, nous, on n'en fait pas. On se spécialise plus dans les visites éducatives, mais l'hydromel, malheureusement, on ne le fait pas.
Ce n'est pas votre truc comme tel, mais de toute façon, les gens connaissent bien. En passant, souvent, nos miels se cristallisent avec le temps. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bons ou quoi? C'est quand même, on peut quand même les déguster, même s'ils sont cristallisés.
Oui, absolument. Vous savez que c'est tout à fait normal. Tous les miels purs cristallisent. Et surtout quand il fait froid, donc l'hiver, quand c'est frais un petit peu, les cristaux vont se former. Et là, ça fait cristalliser le miel au complet. Il est toujours bon.
D'accord.
On peut le déguster tel quel. Ou on le chauffe doucement et puis le miel va revenir liquide. Et
voilà.
Il sera toujours bon.
Merci, Mme Huppé, d'être venue nous en parler. La miellerie Lune de miel. Passez une excellente journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Eh ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et on sera là demain. Et oui, une autre belle semaine finalement qui commence.